Il y a un matin où je suis tombée malade quand je devais garder ma sœur. Et puis donc j'ai dû appeler maman, elle a dû rentrer. Parce que je pouvais pas. Je restais assise sur ma chaise et puis je bougeais pas, j'avais mal au ventre. Puis c'était comme on est l'été en plus, j'avais chaud, je pouvais pas m'endormir, j'étais pas bien, je bougeais dans tous les sens. Et puis j'avais mal à la tête dès que je me retournais d'un côté, j'avais la tête qui sonnait, dès que je me retournais de l'autre, la tête sonnait aussi. Ou s'il fallait pas que je me mette sur le côté parce que j'avais mal au ventre. C'était pas bien du tout, quoi. J'avais tout le temps chaud. Je pouvais pas me mettre debout parce que j'avais la tête qui tournait. Ça faisait comme un gros poids comme ça qui se mettait sur ma tête. Et je devais rester assise ou couchée. Puis j'avais les mains chaudes aussi, donc dès que je touchais quelque part, c'était normal. Et puis j'avais mal à la tête dès que je me retournais d'un côté, j'avais la tête qui sonnait. Dès que je me retournais de l'autre, la tête sonnait aussi. Ou s'il fallait pas que je me mette sur le côté parce que j'avais mal au ventre. Puis j'avais tout le temps chaud. Je pouvais pas me mettre debout parce que j'avais la tête qui tournait. Ça faisait comme un gros poids comme ça qui se mettait sur ma tête. Et je devais rester assise ou couchée. Et puis j'avais mal à la tête dès que je me retournais d'un côté, j'avais la tête qui sonnait. Dès que je me retournais de l'autre, la tête sonnait aussi. Ou s'il fallait pas que je me mette sur le côté parce que j'avais mal au ventre. Puis j'avais tout le temps chaud. Je pouvais pas me mettre debout parce que j'avais la tête qui tournait. Ça faisait comme un gros poids comme ça qui se mettait sur ma tête. Et je devais rester assise ou couchée. Puis on peut pas se lever, qu'on reste toujours allongé au lit. Parce qu'on peut pas bouger de peur de déclencher un mal de ventre. Donc on reste allongé, puis on essaye de dormir. C'est tout ce qu'on peut faire.
Dominique Petitgand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de bivouaquer sur les ondes de Grenouille à l'occasion de ton passage à Marseille, un passage à La Compagnie, une galerie à Belzunce, rue Francis de Pressensé, où tu proposes une installation qui est intitulée « Un soulagement ». Peut-être quelques mots sur la pièce que tu nous as donnée en écoute pour introduire ce bivouac.
J'ai commencé par quelque chose... parfois... Les débuts, ça m'intéresse toujours je me demande toujours qu'est-ce que je vais faire écouter en premier. Alors là, parfois, je propose quelque chose qui va permettre d'ouvrir petit à petit l'oreille, comme ça, éveiller quelque chose. Et là, c'est pas ce que j'ai fait. Là, j'ai choisi un truc volontairement, un peu coup de poing. Donc c'est une pièce qui s'appelle Les Symptômes, que j'ai faite en 2001, que j'ai faite en plusieurs versions. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est la version sur CD. Et voilà, les symptômes, c'est une voix seule et ce débit très assez rapide. À la différence des autres pièces que je fais, la plupart qui sont où les voix sont entrecoupées de silence, celle-ci a un débit qui est vraiment qui ne laisse pas la place au silence et donc à presque à la réflexion de l'auditeur. Quoi, on est un peu assommé par des coups qui arrivent à droite, à gauche, comme un boxeur qui est pris dans un match et à un moment donné ça y est, ça va être le chaos comme ça. Donc c'est ce jeu-là aussi de la répétition, de la permutation des mêmes phrases pour redire la même chose, c'est quelque chose qui devient quasiment une obsession comme ça.
On aura compris à l'écoute de cet extrait et aux quelques mots de commentaires que tu viens de nous donner que ton travail artistique est essentiellement s'exerce sur une matière sonore. Pour autant, on ne peut pas vraiment dire que tu es musicien. On peut dire aussi que tes pièces font beaucoup intervenir des voix. Ça, c'est quelque chose qu'on vient de vérifier avec cette écoute.
Alors, justement, par rapport aux voix qui sont les éléments principaux de toutes mes pièces, qui sont même toujours le premier plan, je vous propose d'écouter maintenant quelque chose pour appuyer cette idée de la voix qui est entre le chant et le parler. Parce que tous les voix qu'on entend dans mes pièces sont des gens qui parlent. Mais la façon dont je monte, j'utilise certains fragments et je vais monter, c'est une certaine recherche aussi d'une musicalité. Et avec toujours, en plus, dans la pièce à symptômes, je pense que ça s'entend aussi, ça, à un moment donné, ça chante. Voilà. Et je vous propose donc d'écouter l'extrait de... Alors, moi, la question c'est est-ce que j'annonce après ou avant? Je vais peut-être vous laisser. Ah, je vais donner le titre après.
Incurable. Vous êtes au courant?
Oh, son histoire de photo, il est fou. Je trouve ça complètement idiot.
Elle est quand même pas mal, non?
Pas mal.
Vous êtes amoureuse de lui?
Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais ça va pas, non?
Rien, je disais ça comme ça. Faut pas vous fâcher. Simplement travailler avec un type toute la journée, ça peut donner des idées, c'est normal.
Moi, je suis anormale, si c'est ça que vous voulez dire.
Pas commode, hein? Je trouve marrante. Vous êtes sûrement une affaire, mais vous ne devez pas le savoir.
Quelle prétention!
Oh, vous n'avez pas compris. Cherchez pas à me placer.
Vous avez ce qu'il vous faut?
Exact.
Elle est jolie?
Elle sent très jolie.
Oh là là, quel salaud!
Allez, salut poupée!
Salut poupée, Dominique Petitgand. Là, c'était. Je crois qu'on a reconnu cette voix.
On reconnaît Serge Gainsbourg et on reconnaît. Est-ce qu'on reconnaît aussi? C'est Anna Karina. Un dialogue entre les deux dans un film qui s'appelait Anna, qui date des années 70, 67, 70. Et qui est donc une musique composée, une sorte d'opéra pour la télévision composée par Gainsbourg. Et j'ai choisi cet extrait parce que déjà je trouve savoureux comme miniature. Ça s'appelle donc Rien, je disais ça comme ça. Et ça m'a frappé encore en l'écoutant, le passage même clairement du chant au parler, quand il dit... je sais plus. Mais il chante, et à un moment donné, pof, la dernière phrase, c'est vraiment parler, quoi. Et donc il y a ce niveau, ce passage, et puis aussi ce tressage par le montage entre ces différents niveaux de langage, quoi. Et voilà... Avec aussi quelque chose d'assez cinématographique dans le rapport de la durée des séquences musicales qui viennent comme des ponctuations, qui soulignent qui lancent la voix, qui ouvrent une parenthèse, qui la referment, qui ponctuent en fait, plutôt qu'un accompagnement continu comme une chanson avec l'accompagnement et la voix. Dans les musiques de films en fait, ou dans un certain travail assez précis de ce tressage-là, ce que j'apprécie c'est quand il y a vraiment un montage de chaque instant, chaque seconde, il y a quelque chose qui se passe entre on ouvre, on ferme quelque chose, on permet au spectateur ou à l'auditeur de rentrer dans quelque chose, on l'accompagne, on le sollicite, on le chatouille, on le reprend, on perturbe parce qu'il y a des ruptures à chaque fois. Là, les ruptures qu'on vient d'entendre sont assez belles à chaque fois.
Le cinéma, une source d'inspiration pour toi lorsque tu montes tes pièces?
Pas du tout. Non, c'est pas du tout une source d'inspiration parce que je me sens vraiment très loin dans ce que je fais par rapport au cinéma. Par contre, il y a aucun rapport direct de ce que je fais avec le cinéma. Il y a aucune référence, par exemple, aucun mode, etc. Par contre, mes oreilles ont été nourries depuis toujours, comme tout le monde, par ce que j'ai entendu, et donc entre autres par les films que j'ai vus, mais que ce soit à la télévision ou au cinéma. Et ce qui m'intéresse, peut-être là où je suis proche de ce travail de tressage dont je parlais, c'est vraiment peut-être aussi dans le rapport entre les voix, les bruits et les musiques. Que quand je fais la typologie un peu des éléments avec lesquels je travaille, je mets en premier la voix, après je mets les bruits, les musiques, et puis je finis aussi par dire les silences, parce qu'à part égale... Voilà. Et finalement, c'est le cinéma qui fait ça aussi beaucoup, entre le bruit, la musique et les voix. Sauf que la façon dont moi je vais mettre en scène tout ça dans une composition ressemble peu à ce qui se fait au cinéma. On a les mêmes éléments, mais on ne les travaille pas du tout de la même façon. Par exemple, les bruits dans mes pièces ne sont pas là pour crédibiliser une action, un mouvement ou une situation ou une scène. Alors qu'au cinéma, les bruits sont souvent là pour mettre du réel, en fait.
Pour dramatiser l'action.
Oui, ou même pour rendre tangible et réel le fait que quelqu'un ouvre une porte, s'assoit, etc. C'est une espèce d'accompagnement presque du côté vraisemblable, rendre vraisemblable l'action. Alors que moi, les bruits sont totalement ailleurs, sont vraiment dans une dimension quasi onirique. Ils ne sont pas reliés à une idée ou une source précise, ils sont... plutôt une... Ils sont déjà presque proches des éléments musicaux par eux-mêmes. Il y a souvent, dans ce que je fais, une ambiguïté entre est-ce que c'est un bruit ou est-ce que c'est un élément musical. Et c'est les deux à la fois, voilà. Et surtout, je suis pas dans... Moi, je ne crée pas des scènes. Par exemple, mes pièces, il n'y a aucun dialogue.
C'est pas du théâtre pour l'oreille, ni du cinéma pour l'oreille, on l'a compris.
Non, c'est autre chose encore. Il y a une dimension beaucoup plus mentale et moins, et complètement indécise et indéterminée. Voilà. On ne sait pas où on est. Moi, je...
Mais est-ce que tu sais ce qu'on va écouter maintenant ?
Oui, je vous propose d'écouter une pièce qui s'appelle « La porte ne s'est pas ouverte ».
Le soir, on était 5, on avait des chaises, on était 5, donc papa, maman, ma soeur, mon frère, moi, plus les chaises. Et on appuie sur le bouton pour aller au deuxième étage. Et dès que c'est arrivé au deuxième étage, il n'y a pas eu la secousse habituelle. Parce que d'habitude, on monte un peu plus, puis on redescend, ça fait un coup sec. Et il n'y a pas eu ça, donc la porte ne s'est pas ouverte. Et on était juste devant l'entrée, quoi. On était bien à ras du sol, on était bien. Et ça s'est pas ouvert, donc on a sonné, il devait être dans les 10h30, 11h. Avant d'appeler, papa, il a essayé d'ouvrir les portes. Mais il n'a pas réussi. J'avais peur. J'avais peur parce que déjà papa s'énervait. Et j'avais peur que le câble lâche. Qu'on retombe jusqu'en bas au deuxième sous-sol. J'avais peur, je sais pas, de me blesser. C'était bizarre, quoi. Puis j'avais faim. J'avais peur, mais il fallait que je reste tranquille. C'est ce que je me disais aussi. Et donc on a sonné, papa a sonné, il commençait à s'énerver. Ils sont revenus, ils ont appuyé sur un bouton, puis la porte s'est ouverte. Puis on est rentré chez nous. C'était passé comme ça.
Des voix, des sons, des silences. Trois éléments pour composer un drame qui a à la fois quelque chose de très familier et d'une incroyable violence.
Oui, bah le familier et violent en même temps, c'est des germes en fait. Et après, c'est la réception de chaque auditeur qui voilà, la violence s'épanouit ou non dans la tête ou la pensée de chaque auditeur. Mes pièces sont des propositions, voilà. Et après, libre à chacun d'y voir une certaine violence, douceur, légèreté, gravité. Bon, je conduis un peu le chemin, là. Mais malgré tout, par exemple, à travers certains signes, je peux aussi, par exemple, la fin, on appuie un bouton, sur un bouton, la porte s'est ouverte, et on est rentré chez nous. Bon, alors, si c'était que ça, si cette peur pouvait être annihilée, juste, voilà. Et je travaille aussi sur toujours l'idée de la parenthèse. On ouvre, on ferme une parenthèse, et dans cette parenthèse, un drame peut se passer ou non. Et on referme, et puis c'était rien. Ou juste une pensée. Voilà. Et ça, c'est aussi l'idée d'être toujours sur le fil entre quelque chose qui est indéterminé.
Ces parenthèses, ça semble indiquer aussi que dans tes pièces, il y a des hors-champs, et que ces hors-champs, bah, il appartient à l'auditeur de les construire à sa manière, avec des images, avec des pensées, avec des sentiments, avec des souvenirs, avec ce qu'il a sous la main.
Oui, et puis là, une des premières figures du hors-champ dans mes pièces, c'est évidemment le silence. À propos de peur ou de l'idée d'instaurer un climat, je vous propose d'écouter maintenant l'extrait de quelque chose.
Good afternoon, Mr. Roque.
Her name is Camilla Rhodes. The director doesn't want her.
Do you want him replaced?
I know they said.
Then. That means we should.
Everything down. Is that something that...
Do you want us to shut everything down? Then we'll shut everything down.
Machine ou peut-être la ville au loin pour un son très grave et oui. Puis par-dessus des éléments de dialogue qui font penser à des films américains ou romans noirs.
Bah, c'est une rumeur hein, très basse, très sourde. C'était l'extrait de Mulholland Drive de David Lynch. Et dans beaucoup de ses films, des séquences, il met ces rumeurs, ces sons qui sont indéterminés. On ne sait pas si c'est le son d'un radiateur, d'un ascenseur. Ou si c'est notre cerveau qui fait bzzz, comme ça. Et avec ce côté souterrain et qui dans ce cadre-là, est évidemment la figure d'une angoisse qui plane, quoi. Il y a aussi une autre figure qui est travaillée, là, qu'on vient d'entendre, que je trouve, qui est peut-être pour moi aussi très importante, c'est le fait de retenir le temps, voilà, suspendre le temps. À la différence de la première pièce qu'on a entendue, les symptômes qui lui accéléraient et pédalaient un peu comme une souris sur sa roue, là, de façon presque infernale, la pièce avec la porte qui ne s'est pas ouverte, par exemple, ou ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même l'idée de suspendre le temps. et de faire en sorte que chaque voix intervient comme presque une espèce de d'éclair, de flagrance, comme ça on coupe un tissu temporel là, qui est, et ça tombe comme à chaque fois comme un coup de truc sur la tête comme ça, et ça rend aigu vraiment l'écoute pour moi. Donc ce sont des fragments assez courts finalement, et des voix à chaque fois. Ce que je trouve assez beau dans ce qu'on vient d'entendre, c'est les attaques des voix. Et aussi, bon, j'ai pas le mot exact, entre le débit, le ton, le jeu, bon, la matière de la voix, puis aussi la façon dont c'est dit. Et ça attaque vraiment comme un coup sur la nuque à chaque fois. Avec aussi les différentes matières, parce qu'il y a différents personnages, mais même à l'intérieur d'une même voix, il y a ces effets, ce relief. Et ça rend notre écoute très aiguë, comme ça, ça suspend le temps. Chaque son intervient et est comme une espèce de petite pépite qui prend... Et du coup, ça colore aussi tout. Et ça crée l'angoisse, ou alors le suspense, ou le mystère, quoi, je pense. Là, de façon évidente. C'est aussi parce que chaque mot n'a pas besoin d'être extrêmement mystérieux, mais son interruption dans le flux, comme ça, crée un mystère.
Une angoisse ou un mystère dont la mécanique tient donc autant à l'indétermination d'un certain nombre des éléments qu'à la détermination d'autres. Entre indétermination et détermination, il y a ton travail.
Bah oui, en tout cas indétermination...
Voilà, en l'occurrence celui de David Lynch, mais le tien est aussi dans ce registre.
Bah, dans l'indétermination, c'est plus par rapport au récit lui-même, à ce dont on parle, à ce que ça évoque, etc. Par contre, la précision du montage, la précision des éléments, aussi de la musicalité, en fait, qui vont donner ces éléments les uns après les autres à un moment très précis, et voilà. Et aussi la précision de la forme, etc. Et ces deux, pour moi, l'indétermination n'est pas liée, par exemple, à une forme improvisée ou une forme ouverte ou lâche. Il y a des artistes ou des musiciens qui travaillent comme ça et c'est très bien, mais moi je me sens plutôt dans notre bord. C'est l'idée de plus c'est précis, plus on va travailler sur rendre quelque chose qui peut être indéterminé, mais on va travailler vraiment précisément.
C'est une espèce de mécanique au fond qui fait penser au thriller aussi.
Oui,
des choses très très travaillées dans le scénario.
Bah oui, mais en fait à propos de thriller, on va écouter on peut écouter tout de suite un autre extrait.
You're not taking me on that plane with you?
Of course I am. Like our friends, I too believe in neatness, Leonard. This matter is best disposed of from a great height over water.
How about a little champagne before we go?
I'd love it.
You're not be cold enough.
Over the rocks will be all right.
Sure?
Mm-hmm.
Idea.
Malgré les bulles de champagne, inéluctablement, les violons scandent la marche vers, on ne sait pas trop quoi, vers le crime, vers un événement soudain et sans doute désagréable. C'était, tu disais, le maître.
Non, j'aurais pas dû te dire ça parce que je me suis dit, tiens, il va le dire. Et du coup.
Donc, non, c'est... Alfred Hitchcock.
Ouais, voilà, Alfred Hitchcock. Non, c'est pas le maître. Il n'y a pas de maître au monde, mais. C'est un extrait de La mort aux trousses, North by Northwest, et puis cette musique de Bernard Herrmann. Et il y a aussi, évidemment, là c'est pas un cliché, mais parce que c'est un fait, c'est devenu presque une tradition, l'association des musiciens avec les cinéastes, et les accords presque intuitifs qu'il peut y avoir, là, qui, par exemple, entre Bernard Herrmann et ses films d'Hitchcock, là, il y a un accord assez. Que je trouve assez majestueux dans les films des années 50, 60, quoi. Et c'est 5-6 films comme ça. Et entre autres, La mort aux trousses. Et là, par exemple, en écoutant la séquence musicale, purement musicale de ce qu'on vient d'entendre, c'est très proche du courant de la musique minimaliste américaine, par exemple. Et j'avais appris quelque part, je sais plus où, que Bernard Herrmann, la plupart de ses musiques pour Hitchcock étaient faites avec. Alors, je suis pas musicologue et puis je suis pas. Mais c'est l'idée des mesures à 3 temps et non pas à 4. Et la mesure des 3 temps, c'est comme la valse, par exemple, c'est l'instabilité. Le 4 temps, c'est vraiment le truc qu'on retombe sur ses pattes, poum, 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 quoi. Vraiment gauche, droite. Alors que le 3 temps, c'est la. C'est la vrille, c'est la valse, c'est la spirale, c'est la perte d'équilibre. Et donc, c'est les musiques d'Herrmann pour Hitchcock, c'est ça. C'est conduire le chemin, parce qu'il y a quelque chose, il y a le temps qui se déroule, le temps avance, mais en même temps, on fait du surplace. Et en même temps, on commence un petit peu à un moment donné, à vaciller. Et ça se termine souvent par un truc, une perte d'équilibre, quoi. Poum, et ça tombe. Et c'est souvent la fin d'une séquence, par exemple. Et là, ce que j'ai aussi. Ce que j'aime entendre aussi dans cet extrait, c'est les éclats très brefs des bruits de verre, et qui, comme des lames, comme ça, et un peu comme dont je parlais tout à l'heure des voix, quoi, l'interruption dans un flux temporel assez mou, comme, ou en tout cas assez ambiant, et à un moment donné, on est réveillé par des trucs qui viennent comme des secousses, comme ça, et ça, par contre, par exemple, c'est le bruit d'un verre de champagne, donc ça c'est un rôle dramaturgique, mais musicalement, c'est aigu comme une lame dans le dos, quoi. Et je pense que c'est aussi un petit signe qu'on nous adresse à chaque fois, pour réveiller aussi l'écoute, réveiller le. Parce que malgré tout, ce temps qui avance un peu, qui pourrait nous endormir, on est aussi. Donc on est conduit dans une espèce de chemin, et entre s'assoupir, se réveiller, on est perturbé, quoi.
Le temps avance inéluctablement, même si on le suspend parfois. Cette marche inéluctable, c'est le ressort même de la tragédie. Est-ce qu'il y a quelque chose de tragique, au sens vraiment ancien du Alors, terme dans tes œuvres?
Je ne sais pas répondre à ça, parce que je n'ai pas la science ou la culture pour ça. Je dirais oui et non, je ne sais pas. Mais parce que là, je risque de rentrer sur un territoire que je maîtrise mal. Par exemple, parce que bon, pour moi, la tragédie évoque l'idée de l'unité des 3 temps, les 3 unités, quoi, le temps, l'espace et puis le récit. C'est vrai que toutes mes pièces sont des récits concentrés, courts, avec souvent une chute. Il y a un noyau de quelque chose, donc je sais pas, peut-être, mais ouvert.
Mais plus déconstruite. Parce que tu t'autorises à déconstruire peut-être plus de choses que cette forme classique de la tragédie.
J'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que pour moi, déconstruire, c'est vraiment un acte nécessaire avant de mettre ensemble des éléments. Il faut à un moment donné mettre à plat, quoi. C'est comme une machine, il faut l'ouvrir, l'éventrer, répandre au sol tous ces éléments, ces boulons, ces vis, et à un moment donné choisir 2-3 trucs. Et là commence pour moi le récit, voilà. Mais donc c'est déconstruire, c'est vraiment une étape, quoi. Et après, ta question sur la tragédie, je préfère pas répondre et laisser ouvert ça, mais j'en sais rien. Peut-être, je sais pas.
Alors, par antithèse, peut-être, totalement autre chose, à l'opposé.
Alors, totalement autre chose, c'est pour le coup l'extrait de quelque chose où qu'on va davantage, mais là je vais dire une grosse bêtise, parce que qu'on va davantage écouter pour ce que ça dit que ce qu'on entend proprement dit. Je précise, ce n'est pas une œuvre sonore ni musicale, c'est l'extrait d'un entretien avec quelqu'un, et c'est surtout ce qu'il dit. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais en même temps, la façon dont il le dit, sa voix, m'intéresse tout autant, parce qu'on peut, on sépare jamais l'écoute entre le contenu, la forme, etc. Donc c'est un tout. Mais tout ça, une introduction un peu longue pour dire que c'est un document.
Comment expliquez-vous le caractère fragmenté et parfois presque aphoristique de votre écriture ? Le fait que vous ayez peu écrit finalement de livres suivis, de livres continus. Est-ce que c'est une espèce de nécessité faite vertu, précisément ?
Il y a là une espèce de jouissance, répète le mot, dont effectivement j'ai de plus en plus envie de faire, sinon vertu, tout au moins de faire théorie, ce qui est peut-être la même chose.
Parce que vous allez de plus en plus dans ce sens.
Absolument, absolument. Et même maintenant, je suis très conscient de cela et j'ai très envie de travailler dans ce sens-là. J'ai même envie de faire un cours du collège une année prochaine, peut-être même l'année prochaine, sur ce problème que j'appelle le problème des formes brèves. Car dans ce que j'aime aussi, dans ce que j'aime des autres, la forme brève est extrêmement importante. Je me sens un goût très prononcé pour les formes brèves. J'aime énormément cette forme ultra brève, symboliquement brève, qu'on appelle le haïku japonais, par exemple. Ou même en musique, les pièces brèves de Webern, c'est une chose qui me fascine énormément, ou les intermezzi de Schumann. Enfin, je suis très attiré par la forme brève. Alors pourquoi ? Je pense que ça ne serait pas très intéressant de chercher des raisons, comme ça, des raisons subjectives ou des raisons de valeur. Je pourrais dire tout simplement, je l'ai dit d'ailleurs une fois, c'est parce que j'aime beaucoup commencer. J'ai un plaisir d'invention. À trouver ou à faire l'attaque d'un paragraphe, l'attaque d'un fragment. J'aime bien commencer, j'aime bien rompre, j'aime bien imaginer la rupture avec le rien qui précède. Alors évidemment, en multipliant les fragments, je multiplie les plaisirs d'attaque.
Vous avez une écriture effectivement plus interrompue que développée, s'il fallait la définir. Plutôt que fragmentée, je dirais interrompue.
Oui, moi j'accepte bien la nuance, effectivement. Parce que finalement, mes fragments, en tout cas les fragments idéaux que je voudrais produire, ne seraient pas tellement extravagants. Je veux dire, ce qu'on appelle le fragment, c'est quelque chose qui a des contours très irréguliers. C'est parce que ce qu'on appelle en mathématiques les objets fractales ou fractaux, ce sont des objets déchiquetés comme les côtes de la Bretagne. On donne toujours ça en exemple, les côtes du littoral breton. Or, en réalité, j'aimerais beaucoup des fragments qui auraient un certain calibre, une certaine dimension, une certaine régularité. Mais ce qui me plaît, encore une fois, et c'est plutôt vous qui le dites, c'est l'interruption. C'est ça qui me plaît.
C'est l'entame ou l'attaque et l'interruption.
Oui, et aussi la fin, dans la mesure où la fin du fragment pose un problème de composition, disons, intéressant, à savoir qu'il faut bien finir le fragment sans le finir sur un coup de trompette.
La forme brève et le fragment dont parle ce mystérieux écrivain qu'on vient d'entendre.
Et tu veux savoir qui c'est ? Enfin, c'est Roland Barthes. Voilà. Et c'est marrant parce que en introduction, j'ai parlé de documents pour relativiser par rapport à d'autres œuvres où le son est vecteur d'un langage artistique, d'une création, etc. Alors que là, c'est un document. Mais à écouter ça, pour moi, c'est un des trucs qui me touche le plus. Voilà. Et
c'est vrai que la forme brève est en général celle que tu adoptes pour tes propres créations.
Bah, j'ai pas envie de. Ce qu'il dit est tellement évident que j'ai pas envie de le commenter. Voilà, par prudence.
Et pour ne pas rajouter ta voix à la sienne par modestie ou bien parce que tu penses que tout est dit là, là
pas, tout n'est pas dit parce que justement il s'agit jamais de dire tout est dit parce qu'au contraire c'est le début toujours parce que chez Barthes c'est ça, c'est toujours le début, c'est jamais la fin d'un truc. Mais non, c'est pour répondre autrement, on va écouter une pièce assez courte que j'ai faite qui s'appelle Par surprise.
Faudrait déjà le prendre par surprise et c'est 15 secondes, 20 secondes. Parce que par surprise, il n'y a pas le temps de prendre son souffle. Si tu restes, et si on reste 15 secondes, et ben, il risque de s'évanouir. Et puis s'il résiste, bon, on laisse tomber.
La pièce s'appelle Par surprise. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
Une surprise, peut-être on peut revenir un peu sur l'installation que tu vas proposer à la compagnie. Oui. Et en l'occurrence, surprise il y aura, puisque parfois une installation peut en cacher une autre.
Alors il y a deux choses cachées dans l'installation, dans l'exposition. C'est qu'il y a déjà l'exposition donne entendre deux œuvres. Une première qui est une installation proprement dite, qui pour moi l'installation c'est dans le sens ça joue avec l'espace où le déplacement de l'auditeur, du visiteur crée quelque chose. L'écoute de chaque son dans chaque espace, puis le passage d'un espace à l'autre, là commence le récit pour moi. Et le récit commence quand quelque chose se dévoile. Donc ce qui est caché se dévoile. Voilà. Ça, c'est une installation qui joue avec l'espace de la compagnie, la résonance d'un côté, et puis un son sur la mezzanine qui est une voix, ou en tout cas des voix qui se dévoilent comme ça. Après, il y a encore une autre œuvre qui est, elle, qui n'est pas une installation, puisqu'elle elle se fait entendre au casque. Et qui est, pour moi, le casque, ce n'est pas une installation dans le sens où n'intervient pas l'espace, dans ces cas-là. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une installation, il y a toujours l'œuvre, l'espace et l'auditeur. Quand il utilise un casque, il y a l'œuvre et l'auditeur. Voilà. Mais c'est une pièce que j'ai voulu faire entendre de cette façon pour créer aussi encore un autre degré dans la découverte de quelque chose. Voilà, qu'il y ait plusieurs choses à découvrir et que, alors que dès qu'on entre dans la salle d'exposition, je pense que la plupart des gens peuvent se dire « il n'y a rien ». Voilà, mais il n'y a rien. Pourquoi je suis venu ici ? Il n'y a rien. Eh bien, en fait, si, il y a quelque chose. C'est juste qu'il faut que je ne le donne pas tout de suite. Voilà. Les choses ne se donnent pas d'un premier abord.
Où l'on constate que la moitié de ton temps est dévolu à la création de tes pièces et que l'autre moitié de ton temps de travail est dévolu à une réflexion sur comment ces pièces peuvent être diffusées, peuvent être proposées au public et aux auditeurs.
Oui, et le premier temps, alors c'est un temps non pas secret, mais en tout cas plus intime, qui est celui où je fais les pièces, oui, et indépendamment des calendriers, du temps, des contextes, je travaille, voilà. Et je peux mettre plusieurs années, plusieurs mois, ou juste quelques heures pour faire une pièce. Par contre, le deuxième temps, là, c'est le monde entier, les contextes, les supports, les espaces, les lieux, les gens que je rencontre, tout ça sont des paramètres qui me donnent des situations avec lesquelles je vais rebondir. Et donc, le deuxième temps, c'est celui où je donne entendre ce que j'ai fabriqué dans un premier temps dans mon, voilà, dans mon truc, dans mon coin. Et pour moi, c'est important que ces deux temps soient vraiment séparés. Alors que beaucoup d'artistes, ou en tout cas pas mal, vont lier les deux. Moi, c'est important de séparer les deux. Et puis là, je rejoins peut-être le cinéma dans l'idée qu'il y a toujours un deux temps, c'est celui de l'enregistrement et celui de la diffusion et de la projection. Voilà.
Comme la captation et la révélation.
Voilà, comme la comme les premières caméras qui étaient des machines à deux fonctions, celui d'enregistrer dans un premier temps et celui de restituer, de projeter. Et quand on projette, il y a une histoire d'espace, parce qu'on projette dans l'espace. Voilà. Et moi, les espaces dans lesquels je projette, ce sont tous les lieux qui m'invitent, quoi. Des galeries, des musées, des lieux hors circuit art ou non, des trucs institutionnels pardon, ou non, etc. Des salles de spectacle, voilà. Ça, ce sont les espaces de résonance.
C'est la particularité de ton travail aussi, d'être reconnu par des artistes ou des diffuseurs dans de très nombreux registres et dans de très nombreuses disciplines. En fait, c'est vraiment l'exemple même de l'artiste transdisciplinaire, sauf que ton travail, c'est pas vraiment un mélange de disciplines différentes.
C'est ça le paradoxe, en fait. C'est je suis partout, mais je ne fais que la même chose tout le temps. Je ne montre qu'une seule chose, mes pièces sonores. Il n'y a que du son, il n'y a jamais autre chose que le son lui-même. Donc quand je diffuse dans une salle de spectacle, il n'y a que ce que je donne à entendre. Par contre, je suis un peu partout. Et alors que le multimédia, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est un territoire très étroit et ils empilent toutes les... Ils vont mélanger tout en même temps. Voilà. Moi, j'ai une démarche assez minimaliste, quoi, qui est de ne proposer qu'un élément à la fois. Voilà. Si j'étais cuisinier, par exemple, rien ne serait cuit. Il n'y aurait quasiment pas de sauce et les éléments seraient juste à les découper déjà, parce que voilà, c'est essentiellement des gestes de découper, isoler et après prendre les petits bouts juste l'un après l'autre. C'est un peu comme. Voilà, ce serait.
C'est des sushis.
Ça peut être ça, mais je ne voulais pas faire.
J'adore les sushis!
Ou alors le lien trop évident avec le haïku, les haïkus dont parlait Roland Barthes. Moi, je vous propose, pour finir, d'écouter quelque chose qui est sur lequel je n'ai rien à dire. Qui est le... Bah, du coup, si j'ai rien à dire, autant que je ne dise rien.
Been coming down for a long time. Changes coming down on me. Can't seem to carry them all now. Been wishing there was someone else I could be. Hey, now who really cares? Hey, won't somebody listen? Let me say what's been on my mind. Can I bring it out to you? I need someone to talk to, and no one else will spare me the time. I used to think of Ferris wheel light sounds, the Friday hum of neon and blue, but now they're like circular cages of grated tin and rusted wind. Hey, now who really cares? Hey, won't somebody listen? Let me say what's been on my mind. To you, I need someone to talk to, and no one else will spare me the time. Mm-hmm.
Un picking de guitare et une voix très fraîche pour conclure ce bivouac de Dominique Petitgand sur les ondes du 88.8. On écoutait
Linda Perrax, un disque qui est sorti en 69. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas à cette époque. Et que j'ai découvert grâce au livre de Philippe Robert, Rock, un itinéraire bis, publié Le Mot et le Reste, où, en fait, rien qu'en lisant certaines chroniques, je me suis acheté plein de disques. Et c'est assez rare que je fasse ça. Et je suis tombé sur Linda Perrax, pof, voilà.
Parfois, les chroniqueurs servent à quelque chose. Ça, c'est très rassurant. Merci Dominique Petitgand d'avoir proposer ce bivouac à nos auditeurs. Je rappelle que jusqu'au 28 mars, tu proposes une installation à la compagnie à Belzunce, rue Francis de Pressensé. Et puis que si on veut en savoir un petit peu plus sur ton travail et tes pièces sonores, eh bien il y a deux sites sur lesquels on pourra trouver pas mal d'informations et peut-être des extraits sonores aussi. C'est www.gbagency.fr et puis www.icidailleurs.com. Merci Dominique.
Au revoir.